Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Cyclotopo. Cyclotopo est le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis Claire Guillebeau, la créatrice de ce podcast, et je vous emmène avec moi dans mes sacoches à la rencontre des voyageurs et des voyageuses à vélo. Sur quelques jours ou au long cours, en France ou à l'étranger, ils partagent avec nous leurs découvertes, leurs rencontres, leurs galères et leurs anecdotes. Accrochez bien vos sacoches ou votre remorque, nous partons voyager à vélo. N'oubliez pas, un nouvel épisode du podcast Cyclotopo est disponible toutes les semaines au mois de mai pour fêter l'initiative Mai à vélo. Cette semaine, nous partons en voyage avec Astrid et Mathieu. Après avoir achevé leurs études d'ingénieur, Astrid et Mathieu rêvaient de découvrir le monde à vélo. Ils se sont donc initiés au voyage à vélo entre le Lot et la Dordogne. Un essai plutôt concluant qui les a menés directement à envisager la traversée de l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Bénin, pendant 5 mois. Derrière ce voyage se cache le projet 17 Rayons d'Espoir. 17 Rayons d'Espoir, c'est un voyage à vélo en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud, avec pour objectif de rencontrer 17 initiatives ou associations. Chacune en lien avec l'un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Dans cet épisode, nous tendons donc un pont entre Agen et Cotonou. C'est donc depuis le Bénin qu'Astrid et Mathieu nous racontent ses 5 premiers mois de voyage en Afrique, juste avant d'embarquer pour la deuxième partie de leur aventure en Amérique du Sud. J'espère que comme les pistes guinéennes, vous trouverez cet épisode bombé gratté. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Astrid et Mathieu.
Bonjour Claire.
Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Cyclotopo.
Eh ben c'est le plaisir est partagé.
Vous êtes actuellement en voyage, vous nous parlez depuis Cotonou au Bénin et nous allons revenir avec vous sur la première partie de votre voyage en Afrique. Et juste avant de commencer le voyage, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs? D'où venez-vous? Où êtes-vous actuellement? Et depuis quand voyagez-vous à vélo?
Ok, donc moi c'est Mathieu, Mathieu Auriot, j'ai 24 ans. Donc moi je suis ingénieur de formation et là je viens tout juste de terminer mes études à la fin de l'année dernière, ingénieur plutôt en environnement, et donc là on est parti à vélo avec Astrid. Pour l'instant on a fait 5 mois de vélo en Afrique de l'Ouest, donc entre le Sénégal et le Bénin, et là on est au Bénin à la fin de la partie en Afrique de l'Ouest et on va partir ensuite pour d'autres horizons.
Et moi, du coup, c'est Astrid, je suis la copine de Mathieu, et pareil, ingénieur également de formation, j'ai 24 ans aussi, et du coup, bah, ce voyage, c'est un peu le rêve de toute une vie. Avant de commencer à bosser, on s'est dit, on prend un an, c'est l'occasion, et nous voilà sur les routes.
Et justement, du coup, est-ce que vous rêviez de voyager à vélo depuis tout petit, ou c'est venu à vous un peu par hasard, cette idée de voyager à vélo?
Alors de mon côté, pas du tout, parce que je pense que ni dans ma famille, ni dans mes proches, je connaissais des gens qui avaient fait des voyages à vélo. Après, rêver de voyage, oui, mais à vélo, moins. Et je pense que c'est plutôt plus récemment, en fait, où on a rencontré des différentes personnes qui ont pu faire des voyages comme ça, où nous, on a pu se mettre aussi un peu au vélo de notre côté, à la fois dans le quotidien et puis faire des petits week-ends à vélo, des week-ends qui sont transformés en semaines à vélo, et puis on s'est dit qu'on allait franchir le pas et partir beaucoup plus longtemps, pour un an du coup.
Ça marche, c'est un beau défi. Et justement, quel a été votre premier voyage à vélo avant celui-là? Est-ce que vous en avez fait quelques petits? Tu m'as dit que oui du coup.
Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été assez progressif. Donc nous, on faisait un petit peu de vélo dans le quotidien pour les déplacements, pour aller au lycée d'abord, et puis ensuite pour aller au boulot. Et en fait, au début, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait partir en vacances un peu loin de chez nous, mais on n'avait pas envie de prendre la voiture, et on voulait quand même avoir un moyen de se déplacer. Du coup, on prenait le train, et pour avoir un moyen de se déplacer sur place, on avait pris des vélos. Grosse galère parce qu'on n'avait jamais fait ça dans notre vie. Et en fait, on a trouvé ça trop cool d'avoir les vélos sur place. Et du coup, petit à petit, on s'est dit, si on se faisait un week-end vélo, finalement, comme ça, on aura juste les vélos sur nous et de toute façon, on sera mobile. Et après, c'est comme ça, petit à petit, on est parti sur une semaine de vélo. Et ça, c'était le dernier crash test avant de repartir pour un an, quoi.
Mais je pense que avant de savoir qu'on voulait faire un voyage à vélo, on savait qu'on voulait faire un voyage et on n'avait pas l'idée de quel type de voyage en fait. Et pour l'anecdote, moi j'ai vraiment le souvenir d'avoir fait justement un week-end avec Astrid où on avait fait les vélos, et on avait pris les vélos dans le train et je m'étais dit parce qu'on avait galéré à transporter les vélos dans le train avec les sacoches, et je m'étais dit mais jamais on voyagera à vélo parce que pendant un an parce que c'est vraiment trop compliqué pour les transporter quoi. Et bon bah finalement l'idée a quand même infusé et nous voilà là avoir fait 5 mois de vélo en Afrique.
Et vous aviez été où pour ce premier voyage? Vous aviez fait quoi comme voyage pour cette semaine à vélo?
Alors du coup, pour notre première semaine à vélo vraiment, on est parti à côté du Massif Central, quoi, dans le Lot. Et on est allé... Alors attends, rappelle-moi.
On est parti de Brive-la-Gaillarde.
C'est ça.
On est descendu dans le sud, en Dordogne, et après dans le Quercy. Et on a fini vers Cahors.
Très belle région, j'approuve
Ah, c'était
complètement.
magnifique.
Ah, c'était superbe.
Bon, vous avez testé un petit peu le dénivelé. Il y a pas de montagne, enfin de haute montagne, mais ça monte et ça descend normalement.
Ben justement, c'était un peu l'objectif à la fois de tester le dénivelé, parce qu'on savait qu'il y aurait un peu de montagne en Afrique, et de tester la chaleur. On est parti vraiment l'été dernier en pleine canicule, et comme on savait qu'en Afrique il ferait chaud, ça c'était l'occasion de voir si on était capable de supporter la chaleur, et tester aussi le matériel, vérifier qu'on avait bien tout pour partir un an à vélo après quoi.
Justement, on va parler d'Afrique et on va parler du voyage que vous êtes en train de faire en ce moment même. Vous êtes les créateurs du projet 17 rayons d'espoir, donc c'est un voyage à vélo d'un an en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud, comme tu nous l'as dit Mathieu tout à l'heure. L'objectif est de rencontrer 17 initiatives ou associations et chacune en lien avec l'un des 17 objectifs de développement durable. On y reviendra juste après. Moi, j'aimerais savoir comment est né ce projet de partir sillonner l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud à vélo. Pourquoi ces continents? Pourquoi ces parties, même plus spécifiquement de l'Afrique et de l'Amérique?
En fait, il y a une chose qui était vraiment importante pour nous pendant ce voyage, c'était à la fois de voir des beaux paysages et découvrir plein de choses, mais aussi rencontrer des gens. Et en fait, Mathieu ayant passé 6 mois au Sénégal pour un stage, on savait que en Afrique, et surtout en particulier en Afrique de l'Ouest, on trouverait vraiment cette rencontre et que ça serait facile d'aller vers les gens. Et c'est une des premières raisons pour lesquelles on a choisi l'Afrique de l'Ouest. Et l'Amérique du Sud, c'est aussi parce que ça nous faisait vraiment rêver. À titre personnel, depuis que j'ai 10 ans, je rêve d'aller dans les Andes. Vraiment, c'est un truc j'ai toujours voulu faire ça. Et donc là, ça y est, on y est presque. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce continent.
Et après, sur l'itinéraire plus spécifique, en fait, en Afrique de l'Ouest, bah mine de rien, c'est assez contraint, parce que on est quand même des gens très raisonnables et on respecte les recommandations de France Diplomatie du gouvernement. Et en fait, quand on regarde la carte de l'Afrique de l'Ouest, il y a pas mal de zones qui sont plutôt déconseillées. Et donc, en fait, trouver un itinéraire en Afrique de l'Ouest, on peut, un itinéraire continu. En fait, on n'a pas à faire de saut de puce en bus ou en avion. Il y en a pas 36 000. Et donc, celui qu'on a trouvé qui nous allait bien, c'était d'aller du Sénégal au Bénin. Mais c'est vrai qu'après le Bénin, c'est le Nigeria qui est un peu compliqué en ce moment. Avant le Sénégal, c'est la Mauritanie. Alors il y en a qui le font, mais nous, c'était pas trop l'idée. Et puis sinon, côté est, il y a le Mali, le Burkina Faso, et c'est des pays dans lesquels on peut pas aller en ce moment. Ou en tout cas, c'est pas trop conseillé. Nous, on écoute ça.
Et peut-être que de partir du Sénégal, comme toi Mathieu, tu y avais passé 6 mois, c'est peut-être un côté un peu rassurant aussi de partir d'un lieu qu'on connaît.
Ah, complètement. C'est vrai que justement, comme j'avais vécu 6 mois, c'était bon, on avait quelques repères. C'était plus facile de se lancer dans l'aventure d'un pays que je connaissais déjà un petit peu, plutôt que d'un pays sur lequel on n'aurait jamais mis les pieds.
Et est-ce que vous avez déjà mis un pied en Amérique du Sud ou ça va être votre première fois dans quelques jours?
Alors moi jamais. En fait, j'avais jamais quitté l'Europe avant ce voyage, hein, donc c'était vraiment une grande première.
Et moi non plus.
Bon, Bah là, du coup, ça sera le grand plongeon vers l'inconnu, mais c'est chouette aussi. Puis je pense que maintenant, avec cette expérience de 5 mois en Afrique, vous êtes des voyageurs bien rodés.
On espère, on espère.
Et alors justement, comment a réagi votre entourage à l'annonce de ce projet de voyage à vélo?
Oula.
Alors, ça dépend qui. Déjà, les parents. Mes parents ont été très inquiets. En fait, eux, ils avaient beaucoup d'a priori sur l'Afrique. Et pour eux, ça a été vraiment très difficile. Ils ont eu très peur pour nous en se demandant un petit peu ce qu'on allait faire là-bas, comment ça allait se passer, si on prenait pas des risques inconsidérés. Bon, je sais que Mathieu, pour tes parents, ça a été... pas facile non plus, ta maman était très stressée, elle nous donnait plein de conseils pour être sûre qu'on n'oublie rien. Et du coup, en fait, on leur a fait un PowerPoint pour leur expliquer tout le projet de A à Z. Je pense qu'on a passé 2 ou 3 heures à tout leur expliquer, mais comme ça, au moins, ils étaient rassurés, ils savaient où est-ce que leurs enfants partaient.
Et après, dans les amis, bon, évidemment, là, nos amis étaient très, très... très 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 motivé par ce qu'on allait faire quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est que c'est l'Afrique qui étonnait pas mal. On a plusieurs fois eu la réaction, mais qu'est-ce que vous allez faire en Afrique, pourquoi choisir l'Afrique? Et effectivement, je pense que c'est une destination qui est pas très classique, qui peut pas mal interroger, parce que il y a pas mal de clichés qui véhiculent sur le continent sur justement la sécurité, il y a quand même beaucoup de gens qui pensent, je pense que les paysages sont toujours les mêmes partout en Afrique, et du coup ça interrogeait pas mal notre entourage. Ce choix de continent, moins l'Amérique du Sud, mais l'Afrique c'était plus étonnant.
Et donc à ce voyage, vous avez adossé un projet qui s'appelle du coup 17 rayons d'espoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que sont que ces 17 rayons d'espoir?
Pour les auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas si vous connaissez les objectifs du développement durable, les ODD de l'ONU. C'est une liste de 17 objectifs dans des domaines très variés à atteindre d'ici 2030-2050 dans le monde. Du coup, il va y avoir des objectifs sur la santé, l'accès à l'eau, l'égalité hommes-femmes, la préservation de la biodiversité. Enfin voilà, c'est très varié, il y a plein de choses dedans. Et nous... on voulait vraiment partir en ayant un projet, pas juste en se disant on fait un voyage à vélo ou on fait que du tourisme, parce qu'on savait qu'au bout d'un moment on aurait besoin de quelque chose pour avancer et pour garder le souffle. Et du coup l'idée c'était de faire des podcasts sur un sujet stylé, mais on savait pas encore quoi. Et donc en fait en creusant, et notamment avec nos études, et bah, par exemple les études de Mathieu qui étaient plus orientées environnement, on avait pas mal entendu parler des ODD. Et on a pensé que c'était une bonne idée de prendre les objectifs du développement durable comme cadre, à la fois parce que c'est quelque chose qui est très officiel, vu que ça vient de l'ONU, mais aussi parce que c'est un cadre qui nous permet de couvrir plein de choses très différentes, qui vont, bah, comme je disais, à des problématiques très très humaines, comme l'accès à la santé, à des choses plus préservation de l'environnement ou changement climatique, voire à des enjeux auxquels on pense moins, comme l'accès au travail, quoi.
Et peut-être, ce qui était vraiment important pour nous, alors, on n'y arrive pas forcément systématiquement, mais c'est de trouver des initiatives locales, et on insiste bien sur l'aspect local, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de découvrir la déclinaison de programmes internationaux. Donc on va pas aller voir ce que fait Médecins du Monde ou la Croix-Rouge en Afrique. L'objectif, c'est vraiment de trouver des initiatives qui partent du terrain et qui ont été créées par des Sénégalais, des Guinéens, des Ivoiriens, parce que ça nous paraissait intéressant de voir ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a en partant du terrain, et en disant que ça pourrait nous inspirer dans notre vie future, peut-être nous donner envie de nous engager associativement ou d'une autre manière, et aussi inspirer les gens avec qui à qui on montrerait ces podcasts, qui pourraient aussi voir ce qu'on peut faire autour de soi avec pas forcément beaucoup de moyens. Il y a plein de projets qui peuvent être incroyables.
Et est-ce que vous avez adossé du coup ce projet autour des objectifs de développement durable à votre voyage parce que vous partiez en Afrique et en Amérique du Sud, ou vous auriez pu faire un tout autre voyage, par exemple en Europe, et développer tout de même le même projet?
Je pense que ça aurait pu se faire en Europe. C'est un peu, après ça s'est nourri l'un l'autre aussi, quoi. C'est on a trouvé intéressant parce que justement les initiatives très locales qui partent du terrain, qui sont vraiment adaptées au cas d'un village, c'est vrai que c'est des choses qu'on trouve, en tout cas là depuis qu'on est parti, on a vraiment trouvé des cas très intéressants ici, quoi.
Vous nous détaillerez quelques initiatives juste après, et du coup comme vous avez fait la moitié de votre voyage, je pense que vous avez déjà vu pas mal d'initiatives et d'associations, donc on en reparlera juste après. Moi j'aimerais en savoir plus sur la préparation de ce voyage. Alors combien de temps avant le départ avez-vous commencé à préparer le projet, et est-ce qu'il y a eu des grandes phases dans la préparation du projet, je sais pas, par exemple l'achat de matériel, l'itinéraire, des financements, si vous avez demandé des financements. Quelles ont été les grandes étapes de préparation de ce projet ?
Alors, ce projet, ça faisait longtemps qu'on l'avait en tête, je pense 2-3 ans qu'on avait cette idée, alors qui a mis beaucoup de temps à mûrir, et c'est peut-être ça finalement la première étape. On avait l'idée de ce grand voyage, mais sans savoir si on allait le faire à vélo, à pied ou d'une autre manière. Sans savoir l'itinéraire, et donc il y a bien eu, je pense, 2 ans pour mûrir, pour trouver le projet justement. Et c'est surtout dans la dernière année, 2021-2022, où on a vraiment accéléré les préparatifs. Effectivement, il y a eu toute une phase d'achat de matériel. Alors, nous, nos vélos, on a pris des vieux vélos qu'on avait chacun chez soi, donc c'était aussi changer quelques pièces, faire un peu de bricolage et apprendre à bricoler les vélos parce qu'on n'y connaissait vraiment rien. Et puis acheter des petits trucs, le filtre à eau par exemple, ou des petites choses, et notamment faire ce qu'on disait tout à l'heure, voir si on en était capable et si ça nous plaisait bien, donc en faisant cette semaine à vélo entre Brive et Cahors, pour voir si ce type de voyage nous correspondait.
Et après, dans les autres phases vraiment importantes, il y avait du coup la préparation de l'itinéraire. Je pense qu'on l'a fait en 2 grosses après-midi, en fait. On s'est pris une première après-midi, okay. D'abord pour prévoir plutôt la partie africaine, et ensuite une deuxième après-midi plutôt pour prévoir la partie Amérique du Sud, qui a complètement changé finalement. On va pas du tout faire ce qu'on avait prévu, mais c'est pas grave. et ça, c'était aussi un moment assez important de la préparation. Financement, on n'a pas cherché. En fait, c'est vrai qu'on s'est un peu posé la question. Il y a eu aussi toute une part de budgétisation du voyage. Et en fait, on a fait le choix de partir avec nos économies de stage. Donc, dans le cadre de nos études, on a pu réaliser plusieurs stages avec des gratifications qui nous ont permis de mettre un peu de côté. Et voilà, c'est ça seulement nos financements. On n'a pas du tout demandé de sponsor, par exemple.
Tu nous parlais de l'itinéraire, Astrid, tout à l'heure, et tu évoquais du coup votre itinéraire en Afrique que vous aviez planifié en une après-midi. Côté justement planification et visa, est-ce que c'est compliqué d'avoir les visas en Afrique ? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo là-dessus ? Je crois que vous avez eu... Enfin, il y a quelques petites choses à savoir, notamment.
Ah !
Bonne question, ça pourrait vraiment prendre 2 heures, hein, donc on va résumer un peu quand même. Ce qui se passe, c'est que là... À part le Sénégal, on a eu un besoin d'un visa dans à peu près tous les pays qu'on a traversés, et que chaque visa coûte bien une 50aine d'euros au minimum par personne. Donc c'est vraiment une part du budget qui n'est pas négligeable et une part de préparation qui n'est pas négligeable. Ce qui était compliqué, c'est que le système des visas est pas adapté au voyage à vélo, c'est-à-dire que dans plusieurs pays, on pouvait pas faire de visa plus de 3 mois à l'avance. Et on pouvait pas faire le visa à un autre endroit que dans son pays de résidence. Donc on se retrouvait à devoir être à Paris, à vouloir faire les visas parce qu'on est obligé de le faire dans notre pays de résidence, mais en même temps on pouvait pas les faire parce que on allait arriver dans le pays, par exemple le Ghana, à plus de 3 mois après la date où on voulait faire le visa. Donc compliqué. Chaque ambassade c'était différent, donc en fait on s'est rendu en présentiel dans les différentes ambassades à Paris.
Donc en fait, ce qu'il a fallu faire avant, c'est Côte d'Ivoire et Ghana. Le visa pour la Guinée, on l'a fait directement depuis le Sénégal. Là, il y a juste eu un problème de site internet, mais ça s'est bien passé sinon. Le visa pour la Gambie, il y a un visa de transit quand on n'y reste pas longtemps, donc de toute façon, ça allait. Le visa pour le Togo, il a fallu faire à l'ambassade du Togo à Accra. Et le plus facile, finalement, c'était le visa du Bénin. où là tout se fait en ligne et du coup c'était enfin ça vraiment c'est ça a été incroyablement rapide d'une fluidité sans nom.
Mais c'est vrai que pour Côte d'Ivoire Ghana il fallait se rendre à l'ambassade, laisser les passeports pour qu'ils fassent les visas sur le passeport et à chaque fois il y avait bien un délai de une bonne semaine. Donc nous ça a été très 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 juste, on a récupéré nos passeports la veille de départ en avion et pourtant on s'était quand même pris en avance. Donc c'était fallait un peu d'organisation là-dessus. Et on a eu plein de problèmes un peu compliqués parce qu'ils ont eu des pannes internet, ce qui faisait que ils pouvaient pas faire les bons visas. Finalement en fait, ils ont fait un visa à la main pour Astrid mais ils se sont plantés. Donc on a dû refaire le visa une fois arrivé en Afrique. Ce qu'on s'est rendu compte quand même, c'est que en Afrique ces histoires de pays de résidence dans lesquels on était obligé de faire le visa, c'était pas tellement respecté sur place, et que finalement on a pu faire des visas en Afrique alors qu'on pensait pas pouvoir les faire là-bas.
En fait, on a l'impression que ce qui compte vraiment, c'est par où on arrive. Si on arrive par l'aéroport, je pense qu'ils sont plus pointilleux. Par contre, quand on arrive par la voie terrestre, ça a l'air d'aller, quoi. Enfin, on s'arrange toujours.
Il y a peut-être que le Ghana qui est réputé difficile à faire, et le Ghana, faut anticiper, quoi.
Ouais.
Ouais, c'est d'autant plus compliqué et peut-être stressant que, comme vous le disiez, il n'y a pas 50 routes possibles. Donc, si vous n'obtenez pas le visa, c'est difficile de faire un détour pour arriver dans un pays, du coup, après sur la route.
Oui.
Complètement, complètement.
Tout à fait, oui.
Et c'est vrai que, du coup, on a fait le choix, par exemple, de ne pas passer par la Guinée-Bissau, ni le Sierra Leone, ni le Liberia. Je pense aussi en partie parce que ça aurait demandé de faire un visa juste pour une semaine dans le pays et que c'était trop de démarches et qu'on pouvait contourner, quoi.
Alors, on va continuer administratif, hein, tant qu'on est dedans. Est-ce que vous avez souscrit une assurance voyage spécifique ?
Nous, on a pris l'assurance d'Allianz Travel. Alors, je sais plus si elle a un nom spécifique, mais ça nous correspondait bien. On a eu deux fois l'occasion de les appeler pour des petits pépins de santé, et en fait comme ça on a eu des téléconsultations, et c'est vrai que bah c'est confortable quoi, parce que comme ça en fait on n'avait pas vraiment besoin de les consulter, mais au moins on était serein et on a pu leur en parler tout de suite, quoi.
Ok, je comprends. On continue administratif, est-ce que vous avez pris une carte bancaire spécifique ?
Alors en fait on a effectivement pris une carte bancaire spécifique, c'était Monabank, qui était une carte bancaire réputée sans trop de frais bancaires. En pratique, on n'est pas si... Alors, on verra comment ça se passe en Amérique du Sud, mais on n'est pas si content de notre choix, parce que en Afrique, on paye rien par carte bancaire. Alors, effectivement, on peut retirer dans les distributeurs, mais il n'y a pas de paiement par carte bancaire, et tout se paye en cash. Et donc finalement, le gain qu'on aurait pu avoir, les frais qui étaient épargnés, bah, on n'en a pas tant que ça. Et la carte coûte quand même peut-être 8-9 euros par mois, je pense.
Ouais, c'est ça.
Donc je pense pas que ce soit si avantageux que ça pour nous. Après, peut-être que ça le sera plus en Amérique du Sud.
Ok, bon, c'est bon à savoir en tout cas. Une dernière question administrative ou qui s'en rapproche. Est-ce que vous avez souscrit un forfait de téléphone spécifique aussi ?
Alors non, on a juste changé nos forfaits de téléphone pour pas perdre nos numéros, donc on est sponsorisé pour rien, hein, mais on a pris du coup le forfait à 2 euros.
Okay.
Comme ça, on a gardé une carte SIM avec le numéro français qu'on avait à la base. Et en pratique, il se trouve qu'on a tous les deux réussi à perdre nos cartes SIM françaises. Donc bon, maintenant elles sont en France. Mais sinon, en pratique, en fait, on achète des cartes SIM sur place. À chaque fois des cartes SIM locales, et alors ça pour le coup je sais pas comment ça sera en Bolivie ou en Argentine, mais en Afrique c'est hyper facile, ça coûte rien du tout. Là par exemple on communique avec toi grâce à la 4G et il y a du réseau partout, et vraiment tu vois on en a pour j'ai plus trop les ordres de grandeur en tête, mais un forfait de 3 gigas c'est coûte vraiment pas grand chose, quoi. Donc c'est hyper rentable. Voilà, pour tous les voyageurs qui vont en Afrique, prenez des cartes locales, vraiment ça vaut le coup.
Ok, bon bah c'est bon à savoir, c'est intéressant aussi d'avoir les retours de voyageurs, parce que chaque continent et même chaque pays est différent. Alors ça n'a rien à voir avec vous, mais tu vois, aux États-Unis, il y a beaucoup de voyageurs qui disent « gardez votre forfait français, gardez votre forfait français ».
Ah, ok.
Ok, ouais.
Et là, du coup, je comprends que c'est un peu plus l'inverse.
Ouais, complètement.
on a fait le tour de tout ce qui est préparatif et matériel. Ah si, peut-être une dernière question. Bon, c'est pas d'administratif, mais bon, ça se rapproche. Côté vaccin, est-ce que vous avez eu pas mal de vaccins avant de partir?
Oui, aussi. Et là aussi, c'était quelque chose à pas mal anticiper. Nous, on est allé à l'Institut Pasteur à Paris pour faire des vaccins. Alors, il y a eu quelques vaccins. Je pense, moi, de mon côté, j'ai eu la typhoïde, méningite, je sais plus. Mais moi, j'avais déjà les hépatites qui étaient faites. Et en fait, surtout, ils nous ont fait nous vacciner contre la rage. Et le vaccin contre la rage, alors bon, je sais pas si on a bien fait de le faire, nous ils nous l'ont conseillé, ceci dit on n'a pas vu du tout de chiens errants en Afrique, mais le vaccin pour la rage, contre la rage, c'est compliqué, faut faire 3 injections avec un protocole très précis, c'est-à-dire que entre la première et la deuxième, il faut qu'il y ait pile poil 7 jours, pas un jour de plus, pas un jour de moins, et chaque injection coûte bien, enfin, est assez cher, donc fallait bien anticiper ça aussi. Je sais pas si tu vois d'autres choses...
Il y a la fièvre jaune surtout. C'est surtout celui-là qui est important, mais nous, on l'avait déjà tous les deux.
Oui, et fièvre jaune, qui est obligatoire.
Ouais, donc anticiper, préparer le budget aussi, je suppose qu'il doit être assez conséquent pour les vaccins.
Oui.
Oui, oui, oui.
Et forcément, c'est peut-être plus simple quand on habite du coup dans des grandes villes. Enfin, je vois à Toulouse, il y a aussi un centre de vaccination, que peut-être quand on habite dans des plus petites villes, ou alors, je sais qu'il y avait des voyageurs qui disaient que médecins traitants pouvaient les faire aussi. Mais ça doit être... ça reste quand même assez contraignant.
Oui, c'est
sûrement
sûr.
Sûrement, oui. Ouais.
Bon, bah, je crois que là, pour le coup, on a fait le tour des préparatifs. on va passer au voyage. Donc, vous avez pris l'avion le 18 octobre 2022 de la France en direction de Dakar au Sénégal pour débuter la première partie de votre voyage en Afrique de l'Ouest. Et donc, au programme, vous nous l'avez dit juste avant, donc 5 mois et 5000 km entre le Sénégal et le Bénin. Et là, vous êtes à la fin de votre partie africaine au Bénin. Alors, on va rembobiner. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre départ? Est-ce que vous appréhendiez ou est-ce que vous aviez hâte de partir?
Bah, du coup, oui, le départ, c'était quelque chose quand même. De mon côté, j'ai ressenti vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excitation, pas mal d'appréhension aussi, en se disant « Waouh, ça y est, on part pour 10 mois, c'est l'inconnu, on sait pas comment ça va se passer. » c'était vraiment un sentiment hyper hyper exaltant et en même temps, enfin, là où j'étais super heureuse, bah, c'était de partir avec Mathieu, parce qu'avant tout ça reste une aventure de couple, et ça c'était incroyable. Et après l'arrivée au Sénégal, alors là il y a tout qui change vraiment, c'est fou quoi. Tu arrives déjà 30 degrés de différence avec Paris, hein. Il y a pas moyen de passer à côté. Et puis tu débarques, enfin du coup là c'était hyper confortable parce qu'il y avait quelqu'un qui nous attendait à l'aéroport pour prendre nos bagages, mais juste aller jusqu'à la chambre où on dormait, tu passes par le marché, il y a un monde fou, ça parle Wolof, donc une langue que je connaissais pas du tout. Il y a des odeurs que tu reconnais pas du tout, après t'as des odeurs d'essence, t'as des chèvres qui se promènent sur la route, les taxis jaunes qui se doublent, ça klaxonne dans tous les sens, et vraiment des couleurs, des mouvements auxquels on n'est pas habitué. Et en fait moi ça m'a pas mal fatiguée, j'ai senti qu'il fallait engranger toute la nouveauté. Mais en même temps, je me sentais vraiment au bon endroit pour débuter ce voyage, en me rendant compte que ça allait vraiment le faire, quoi. On est vraiment au pays de la débrouille, et du coup, les gens, ils vont vraiment nous aider tout le temps dès qu'on aura un problème.
Et de mon côté, je pense qu'on a vécu les choses un peu différemment. Le départ, ça a été dur de dire au revoir aux proches. Alors, on avait réuni nos amis pour faire une petite fête pour leur dire au revoir. Quand même, dire au revoir à ma famille, à ma mère qui commençait à pleurer quand on partait, bon, bah, ça... c'est difficile, hein. Et l'arrivée à Dakar, mais pour le coup, moi, je connaissais déjà la ville et j'avais vécu 6 mois. Donc, c'était rigolo de voir ce qui avait changé, parce que ça se construit beaucoup, donc voir tous les nouveaux bâtiments qui étaient arrivés, les endroits que je connaissais qui avaient fermé, et j'avais encore quelques amis sur place, donc c'était l'occasion de les retrouver et de passer des bons moments. Et peut-être hein, quelque chose qui est important à préciser, c'est que on a voulu avoir une arrivée très progressive. On n'est pas sorti à vélo de l'aéroport pour commencer à pédaler. L'idée, c'était vraiment d'y aller tout doucement, de prendre le temps d'avoir ses marques. Et donc, on a passé une semaine et demie à Dakar pour bien, justement, acheter les cartes SIM, vérifier que tout va bien, s'habituer à la chaleur, à tout ça. Et on n'est pas parti exactement de Dakar. En fait, on est sorti en voiture sur 20 km pour partir d'une petite ville. Parce que commencer nos premiers kilomètres dans une capitale africaine, ça aurait été un peu rude, je pense. Ou en tout cas, on aurait eu du mal, nous.
Et puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de trafic, quoi. C'est, faut voir une rocade ou un périph' aux heures de pointe avec des gens qui se slalomment dans tous les sens. On se sentait pas très à l'aise, quoi.
Tu m'étonnes. Je suppose qu'il y a un axe principal et peut-être pas trop de routes secondaires pour sortir de la ville. Enfin, peut-être un peu comme chez nous, finalement.
Ouais, et puis en plus c'est un peu sur c'est une presqu'île quoi. Donc c'est vrai que pour y accéder, t'as pas non plus 12 000 chemins. Quoi.
Bon, alors ce premier jour de voyage à vélo au Sénégal, ça ressemblait à quoi ?
Et bah ce premier jour de voyage à vélo, là je pense qu'on l'a aussi vécu très différemment. En fait, ce qui se passe, c'est que Astrid est tombée tout de suite malade, donc on a repoussé un petit peu le départ dans cette petite ville qui s'appelait Touba Diallo, dont on voulait partir. Et donc, on est parti l'après-midi, la première journée, on a roulé 8 km, donc un truc tout petit. J'avais déjà fait un repérage avant, enfin c'était vraiment juste pour se lancer. Et moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est que le premier soir... c'était le grand bain parce que on savait pas si on allait être accueilli et c'était encore des villes d'assez grande taille, donc c'était pas le petit village où c'est facile de demander de planter la tente. Et là en fait on est allé voir, il y avait une église et donc on a demandé à un prêtre si on pouvait mettre la tente quelque part. Et alors on s'est fait accueillir très bien et on a pu mettre la tente dans un petit terrain. Mais bon, c'était la tente était à côté d'une poubelle qui débordait. Du coup, la nuit, il y a eu des chiens qui sont allés manger dans la poubelle. Et moi, j'ai quand même eu un petit moment de solitude en me disant « Ah mince, mais tous les soirs comme ça, bah ça va pas être facile. » Bon, et puis après, on a eu plein de choses incroyables qui sont arrivées. Mais c'est vrai que moi, le premier soir, je faisais pas le fier quand même.
Et pourtant, vacciné contre la rage et même pas de morsure.
C'est ça.
Du coup, ouais, la première fois qu'on a enfourché les vélos pour rouler les... Bah, du coup, ces 8 premiers kilomètres, en fait, c'était fou, quoi. Se rendre compte que ça y est, on pédalait vraiment en Afrique et que le voyage, il commençait vraiment. C'était complètement hors du temps, quoi.
Et puis, tu te rends compte que si tu peux faire 8 kilomètres, tu peux peut-être en faire 80, puis 800, puis 1000, 2000, et ainsi de suite, en fait.
C'est ça.
Si on repart au Sénégal avec vous après Touba Diallo, vers où êtes-vous allé et quelle a été la suite de votre voyage ?
En fait, donc depuis Touba Diallo, on a d'abord pas mal longé la côte. Donc là, ça a été de moins en moins urbanisé, donc de plus en plus agréable. On n'a pas eu tout de suite notre première nuit en village. D'abord, on a eu plutôt justement des presbytères pour dormir, ce qui était on se faisait tout le temps bien accueillir. Et après on a eu notre première nuit en village là qui était incroyable où on se retrouve à demander l'autorisation au chef de village de planter la tente, on se fait accueillir par tout le village, le chef de village super sympa qui nous donne à manger, mais c'était quelque chose de sucré donc on n'avait pas compris que c'était ça le dîner. C'était une première expérience incroyable. Et en fait du coup on allait plein sud, on a traversé la Gambie en deux jours. Donc là, c'était très très rapide, parce que c'est un tout petit pays, une enclave dans le Sénégal. Et on est arrivé en Casamance, donc la partie sud du Sénégal, où là, en fait, j'avais des anciens collègues chez qui on a pu rester une semaine. Et c'était une bonne première étape, je pense 15 jours après le départ, pour déjà faire un petit point et retrouver des têtes connues. Et encore une fois, rentrer tout progressivement dans le voyage à vélo, c'était bien pour nous, je pense.
Et en arrivant au Sénégal ou pendant ces premières semaines de voyage à vélo, est-ce que vous avez eu un petit choc culturel ou finalement, comme tu dis, Mathieu, tout s'est fait en douceur ?
C'était vraiment en douceur dans la mesure où on a fait d'abord des petits kilométrages. Je pense qu'on n'a pas trouvé tout de suite notre rythme, donc au début, on faisait pas des grosses distances. Ou alors des journées avec des très grosses distances, mais du coup, on arrivait super fatigué et c'était pas vraiment notre rythme. Mais par contre, ouais, niveau choc culturel, ce qui était intéressant, c'est que on a tout de suite senti qu'il y avait quand même des ethnies qui changeaient au fur et à mesure qu'on roule. Et rien qu'en 15 jours, ça, on l'a vraiment senti. Et c'est quelque chose à quel on n'est pas du tout habitué en France. Enfin, même si les régions changent, même si les habitudes sont pas exactement les mêmes d'une région à une autre, on n'a pas ces différences d'ethnie, en fait, et du coup, de langue, de culture, de nourriture. C'est des choses qu'on a vraiment découvert au fur et à mesure, et ça nous a vraiment plongé dans le grand bain.
Peut-être en petite anecdote de différences culturelles, un soir, donc on est encore dans un village, donc petit village, et on demande l'autorisation de planter la tente, donc pas de souci. Et en fait, je pense que c'était le chef du village ou son fils nous dit, mais vous allez quand même pas dormir dehors. Et nous on dit, bah si, on a l'habitude, on a la tente, regardez. Et il nous dit, oui, mais il y a le kangourang la nuit. Et en fait, le kangourang, c'est un masque au Sénégal. Donc, ce qu'on appelle masque, c'est assez difficile à décrire, mais c'est
un esprit, un peu un esprit de la forêt.
Un esprit qui sort la nuit. Et nous, ce qu'on, mais physiquement, c'est alors nous, en Européens, on voit quelqu'un qui porte un masque, mais c'est vu comme un esprit qui sort la nuit et qui sert à faire peur aux villageois qui respectent pas les règles, en fait. Et en tout cas, c'est ce qu'on en a compris. Et donc, ils voulaient pas qu'on dorme à cause du kangourang, et ils nous ont proposé une case pour qu'on puisse planter la tente à l'intérieur de la case. Mais c'est le genre de chose qui est très très orthogonal par rapport à ce qu'on connaît d'habitude en France.
Et est-ce qu'il y a des croyances, justement, qui changent de village en village, d'ethnie en ethnie, qui changent assez rapidement, peut-être au fil de la traversée du Sénégal et des autres pays, sans doute?
Au niveau des religions, du coup, en fait, le Sénégal et la première moitié de la Guinée, c'est très musulman. Donc, Alors, bon, sauf petite exception, sur la côte vraiment du Sénégal, c'est assez catholique, pour le coup. Et pas du tout animiste, ou en tout cas, on l'a pas vu. Sauf pour le kangourang, justement. Donc, parfois, c'est des petites... à chaque fois, faut nuancer, quand même. Et par contre, après, à partir plus du sud de la Guinée, et ensuite Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, là, pour le coup, ça devient de plus en plus chrétien, donc pas seulement catholique, hein, aussi protestant, de plein d'églises différentes, et de l'animisme qui prend de plus en plus de place. Donc, par exemple, ça c'était rigolo aussi, un soir en Guinée, on est accueilli chez une dame qui s'appelle Pauline, et en fait, dans sa maison, on voit une espèce de filet rempli de pierres, et du coup, on demande ce que c'est, et en fait, c'est un sacrifice pour apporter le bonheur à la maison, quoi. Et elle lisait l'avenir dans des coquillages aussi. Donc voilà, c'est des choses, pareil, on n'est pas habitué, mais c'est assez incroyable d'être immergé là-dedans, en fait.
J'ai noté que la première association que vous avez rencontrée portait sur l'objectif de développement durable numéro 6, donc eau propre et assainissement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette rencontre?
Alors, la toute première association, c'était à Foudioun, donc qui est une ville dans le Siné-Saloum. Alors le Siné-Saloum, c'est une région avec beaucoup de mangroves, c'est le delta d'un fleuve, en fait. Et là, c'est au nord de la Gambie, donc c'est le Sénégal, et donc c'est au nord de la Casamance, parce que en fait, dans l'ordre de nord au sud, il y a la région du Siné-Saloum, ensuite la Gambie, et ensuite on arrive en Casamance au Sénégal.
Alors en fait, du coup, c'était la première fois qu'on cherchait une association, on se lançait un peu à l'eau, on savait pas comment ça se passerait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a cherché sur Facebook si on trouvait pas des contacts de gens qui faisaient des trucs dans Foundiung. Et en fait, j'ai trouvé le contact d'un monsieur, Abdallah Camara, et je l'ai appelé, il a répondu tout de suite. Au téléphone, il nous a expliqué ce que faisait son association qui s'appelle Foundiung Debout. Et il a accepté de nous rencontrer. Et en fait, dans l'heure d'après, il est venu à l'endroit où on était dans la ville. Et on a pu se rencontrer dans une petite cantine au milieu de Foundiung. Et il a commencé à nous expliquer le but de son association. Donc c'est une association qui fait beaucoup de choses, mais qui notamment s'est battue pour l'accès à l'eau potable à Foundiung. Parce que c'est une ville qui est entourée par de l'eau salée, et du coup, la population grandissant, la nappe phréatique ne suffisait plus à approvisionner tout le monde en eau potable. Et donc, bon, je n'en dirai pas plus, hein, faut écouter les podcasts. mais voilà, et du coup, c'est un peu comme ça qu'on s'est retrouvés face à ce monsieur, alors que on ne le connaissait ni d'Ève ni d'Adam, et lui, il était super partant pour nous expliquer ce projet et comment tout ça fonctionnait, quoi.
Et peut-être, c'est quand même une caractéristique de ce qu'on a vu en Afrique qui nous met parfois un peu mal à l'aise, c'est que quand on recherche des associations, en fait, on en trouve souvent beaucoup. C'est-à-dire que j'ai l'exemple, une fois, on avait demandé à un monsieur, c'était en Guinée, ça, on était dans une ville qui s'appelait Koulé, et on voulait rencontrer un groupement féminin pour voir, voilà, pour faire un podcast. Et donc le monsieur dit bah, pas de souci, je vais me renseigner. Et le lendemain, il arrive avec une dizaine de femmes qui étaient présidentes de 10 groupements féminins différents qui sont venus nous voir pour nous rencontrer et voir ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pouvait faire quoi. Et là où ça nous fait bizarre, c'est que bah, ça marche bien parce qu'on est des blancs, qu'on véhicule quand même cette image, je pense, de richesse. Et que voilà, quand il y a les blancs qui arrivent dans la ville et qui demandent à rencontrer des associations, bah les associations viennent tout de suite, sûrement dans l'espoir d'avoir des financements. Et donc personnellement, ça met dans une posture un peu étrange où il faut bien expliquer que on n'est pas là pour donner des financements, mais pour faire connaître l'association et pour faire cette interview à une échelle quand même très modeste. Et arriver à trouver la bonne posture avec ces gens, c'est pas évident, quoi.
On parlait de podcast tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre podcast 17 Rayons d'Espoir ?
Donc en fait, 17 Rayons d'Espoir, l'idée c'est de faire c'est deux séries de podcasts en fait. C'est d'une part, on rencontre donc ces 17 associations en lien avec les 17 objectifs de développement durable. Donc ça va aboutir sur une série de 17 épisodes, chacun en lien avec une association. Et puis à côté quand même, on fait quelques épisodes pour raconter plus le quotidien du voyage à vélo. Qu'est-ce que c'est que voyager à vélo en Afrique, comment on vit ça. Et en enregistrant, ce qui est important pour nous, c'est on a un micro toujours avec nous. Et on enregistre les sons du quotidien, donc les musiques qu'on va entendre dans la rue, les bruits des oiseaux à la pause. Et du coup, on essaye de mettre ces petits sons dans nos podcasts sur le voyage, parce que c'est à la fois c'est sympa à entendre, et aussi pour nous c'est une manière différente en fait d'appréhender un pays qu'on traverse. Souvent, on est très très dans le regard avec la photographie. Et là, nous, on pense aussi au son, quoi, à écouter ce qui est autour de nous, et c'est chouette pour nous.
Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ça permet de faire voyager par le son, et ça offre un autre regard, entre guillemets, sur le pays et autres. Bon, vous savez que je suis assez fan des podcasts, donc. Sinon, on serait pas là aujourd'hui, je crois.
C'est ça.
Donc on va reprendre le fil du voyage. On s'était arrêté en Casamance. Après vous avez passé la frontière avec la Guinée. Quand on passe du Sénégal à la Guinée, est-ce qu'au niveau des paysages il y a un grand changement ? Ça donne quoi de voyager à vélo en Guinée ?
Alors ça a été rigolo parce que justement on a passé la frontière et nous on pensait que ça changerait pas tellement. Mais mine de rien, dans la première après-midi juste après la frontière, et bah d'un coup il y avait beaucoup plus de rivières, et d'un coup on a vu des montagnes au loin qui commençaient à se profiler, qu'il n'y avait pas du tout au Sénégal, pour le coup c'était du plat à perte de vue quoi. Et donc changement un peu géographique, ouais. Et on n'a pas tellement senti de différence culturelle, parce que l'ethnie qui est vraiment dans l'est, enfin le sud-est de la Casamance, c'est la même que celle qui est dans l'ouest de la Guinée, c'est les Peuls. Et du coup, la langue est quasiment la même, et la culture aussi, c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup. Là où on a senti une grosse différence, peut-être qu'on en parlera plus tard, c'est entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, là on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait des grosses différences entre les deux pays.
Mais du coup, oui, le nord de la Guinée, en fait, c'est la chaîne de montagnes du Fouta Djallon, et c'est de là d'où prennent leurs sources pas mal de fleuves africains, donc il y a...
Le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, le fleuve Niger.
Ouais.
Oh, voilà, il y en a plein.
Donc c'est des montagnes alors qu'ils vont pas très haut. Je pense qu'au maximum, on doit atteindre 2000 mètres d'altitude. Nous, le maximum où on a été, c'est 1300 mètres. Mais du coup, c'est une région avec plein de belles cascades, où il fait plus frais. Et ça, c'était très agréable d'avoir un peu de fraîcheur. Donc effectivement, ça change du Sénégal. Le Sénégal, c'est magnifique. Il y a plus de mangroves, de plans d'eau.
C'est, et de la savane arborée aussi, pas mal. Donc moins touffu qu'en Guinée.
C'est une question que je ne vous ai pas encore posée. On aurait pu en parler dans les préparatifs un petit peu. Comment vous guidez-vous en voyage ? Est-ce que vous utilisez votre téléphone, un GPS, une carte papier, rien du tout ?
Alors en fait, on a l'application OSM And, OpenStreetMap. Et du coup, on regarde sur le téléphone. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est pas tellement pour se guider, c'est plutôt pour regarder où sont les villages. Parce que, se guider, c'est pas très compliqué, quoi. On a suivi vraiment les routes principales. Donc ça va. On a rarement des gros pièges, quand même.
Quel type de vélo avez-vous ? Est-ce que vous pourriez faire des pistes ? Est-ce que vous faites des pistes ? Est-ce que c'est pas envisagé ou envisageable ?
Ah bah, il n'y a pas trop le choix, hein. Non, on a... Alors moi, en fait, on a... De mon côté, c'est un VTT. Un VTT qui appartenait à ma mère, qui doit bien avoir 20 ans, je pense. Donc VTT que j'ai quand même un peu modifié. Donc on a installé un guidon papillon... parce que c'était rigolo dessus. J'ai changé le boîtier de pédalier... des petites pièces comme ça pour qu'ils soient en meilleur état. Les roues aussi, on a acheté des pneus bien solides. Et Astrid, c'est un VTC de son côté.
C'est ça.
Et en fait, on passe donc des fois du goudron, mais quand même en Afrique de l'Ouest, il y a quand même pas mal de fois où c'est des pistes. Ou en tout cas, il y a des nids de poules où le goudron peut être parfois de bien mauvaise qualité. C'est pas toujours des terrains parfaits.
Mais c'est vrai que les pistes, c'est quand même super sympa parce que du coup, on est tout de suite un peu plus immergé dedans. Et après, ça dépend de son état. Il y a des pistes qui sont franchement dégueux, mais il y en a d'autres qui sont en très bon état. Et c'est un peu comme les chemins de terre qu'on peut avoir parfois dans la campagne en France. Et c'est hyper agréable, quoi, parce qu'on a la nature autour de nous, la piste rouge devant. Et c'est, voilà.
En Guinée, pour dire qu'une piste était bien, les Guinéens disent qu'elle est bombée grattée. Donc bombée, c'est qu'elle a bien une forme bombée, qu'il n'y a pas trop de trous dedans. Et grattée, c'est qu'il n'y a pas plein de pierres dessus. Donc quand les pistes sont bombées grattées, nous on est contents.
C'est ça.
Ça marche, je retiens. Astrid, tu nous parlais des grosses différences tout à l'heure entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
C'est là où c'est hyper intéressant parce que c'est des pays qui ont été très marqués par leur histoire, notamment l'histoire coloniale. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la Guinée, ils ont dit non au partenariat avec la France, à De Gaulle. De Gaulle s'est vexé, et du coup, les Français, nous, on est partis vraiment comme des schlags. On a tout enlevé, il n'y avait plus rien. Et conclusion, enfin vraiment, le pays s'est retrouvé dans un état, ça a été très 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 compliqué. Et aujourd'hui, on le sent encore, en fait, nous, on l'a pas senti quand on y était, c'est plutôt quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, qui là est un pays qui a gardé des forts partenariats avec la France. On a senti une grosse différence de développement. C'est vraiment cliché, hein, mais à la frontière, la route, elle change drastiquement d'état juste au niveau de la frontière. Côté Guinée, il y a des énormes nids de poules. Côté Côte d'Ivoire, la route, elle devient super grande, super belle, super bitumée. Beaucoup plus d'infrastructures côté Côte d'Ivoire. Et après, ce qui est rigolo, c'est d'autres changements, mais qui sont là plus culturels. On sent que la nourriture, par exemple, n'est pas la même. Il y a des plats qu'on trouvait tout le temps en Guinée, qu'on va plus du tout trouver en Côte d'Ivoire. Et inversement, des plats... dès que tu passes la frontière avec la Côte d'Ivoire, tu découvres le foufou, par exemple, qui est un plat à base de bananes plantains qui est pilé. Ça, on n'en avait jamais mangé en Guinée. Alors que la sauce aux feuilles de manioc, bah ça, tu vois, c'est un truc typiquement guinéen, par exemple.
Et est-ce que vous avez eu un coup de cœur gastronomique ou culinaire pendant ces cinq mois en Afrique ? Un chacun, si vous voulez, hein, ou deux.
Moi, ça serait bien le foufou à la banane, justement, cette espèce de pâte à la banane. On n'en a pas eu tant que ça, hein.
Non. Moi, je pense que ça serait le yassa. Le yassa, c'est une sauce aux oignons qui accompagne du poulet ou du poisson, plutôt au Sénégal. C'était vraiment très bon.
Et entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, est-ce que les paysages changent grandement? Ça donne quoi de voyager en Côte d'Ivoire? Quel type de paysage on peut voir?
Ce qui nous a marqué, c'est que vraiment, à partir de la frontière, il y avait beaucoup moins de dénivelé en Côte d'Ivoire. Donc vraiment, l'arrivée en Côte d'Ivoire, c'était l'euphorie. Hein. C'est la route qui est parfaite, plus du tout de dénivelé, même ça descendait un petit peu. ça nous a fait du bien, je pense, après la Guinée, qui physiquement avait été assez difficile. Ceci dit, en termes de paysage, donc nous, on a vu surtout le nord de la Côte d'Ivoire. Là, c'est plus de la savane arborée. Je trouve que c'est des paysages peut-être moins extraordinaires qu'en Guinée. Après, en allant plus sur des axes secondaires, on avait des jolies pistes avec des jolis villages. C'est plus plat et plus de la savane, alors qu'en Guinée, avec le dénivelé, on avait des jolies montagnes, des jolies jungles. C'est différent.
C'était assez complémentaire, en fait, parce que ça nous permettait à la fois de souffler et en même temps de changer un peu de type de paysage. C'était pas mal.
Ok, je crois. Vous êtes parti pour une durée fixe, du coup, 10 mois. Est-ce que vous étiez stressé, entre guillemets, par le fait d'avoir 5 mois sur un continent, 5 mois dans un autre? Comment vous gérez un peu le temps? Je sais que 5 mois, ça peut paraître très long, mais une fois en voyage, ça peut aussi passer, du coup, très vite.
Là pour l'Afrique, moi j'ai trouvé que c'était vraiment la bonne durée. Au début, alors vraiment en fait, j'ai un carnet et dans ce carnet j'ai collé une carte pour comme ça je trace l'itinéraire au fur et à mesure. Et au bout de 2 semaines de vélo, j'ai tracé l'itinéraire qu'on avait fait et là gros coup de mou, je me suis dit on n'y arrivera jamais. Cotonou c'est super loin, vraiment c'est pas possible. Et en fait après on a trouvé notre rythme. Et du coup, les semaines se sont enchaînées sans se ressembler, mais avec une routine qui s'installe. Et là, en arrivant à Cotonou, je trouve que c'est le bon moment pour changer aussi, parce qu'on a découvert plein de choses, mais en même temps, on a aussi envie d'aller vers d'autres cieux, quoi. Pour les 4 ou 5 mois, un peu plus de 4 mois en Amérique du Sud, c'est vrai qu'on sait pas du tout à quoi s'attendre. Moi, j'ai un peu du mal à me représenter ce que ça va être là, les mois qui arrivent et comment ça va se passer. Ça va être très différent, je pense.
Ouais, ça va être une belle réadaptation aussi. Du coup, ça va être un deuxième voyage dans le voyage.
Complètement, oui. Vraiment.
Est-ce que, je sais pas, sur cette partie de l'itinéraire en Guinée, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une ou deux rencontres que vous aimeriez nous partager?
C'est dur de choisir, hein. Là pour le coup c'était dans un village en Côte d'Ivoire qui s'appelait Djamalakro. On est arrivé et on s'est fait accueillir par le chef de village de assez classiquement, hein. Ce chef de village, il avait un look avec un espèce de chapeau de cow-boy, il était assis sur une chaise, c'était vraiment vraiment rigolo et c'était incroyable parce que on a passé la soirée à discuter, à refaire le monde avec lui. Il était très très cultivé, donc il nous a parlé de la politique en Côte d'Ivoire, on a pu discuter de ce qui se passait dans le monde, il était très informé sur la France, les États-Unis et passer cette soirée juste assis à discuter, ça nous a fait du bien, d'autant plus que on sortait d'endroits où autant les gens parlent français un petit peu, mais pas toujours assez bien pour qu'on puisse tenir des conversations longues et qui sortent des basiques sur ce qu'on va manger et ce qu'on a fait comme voyage à vélo, quoi. Donc là, c'était vraiment agréable de pouvoir avoir une vraie belle discussion ce soir-là. Moi, ça m'a beaucoup marqué.
Et moi, si je devais parler d'une rencontre, ça serait une dame qu'on a rencontrée en Côte d'Ivoire aussi. Elle s'appelle Valérie Vaille. Et en fait, on a pu faire un podcast avec elle, mais c'était vraiment une dame incroyable, quoi. Vraiment d'une énergie folle, complètement rayonnante, alors qu'elle a eu un passé très difficile. Et maintenant, elle se bat pour lutter contre l'excision des filles. Parce que c'est vraiment quelque chose qui est encore très présent en Guinée et en Côte d'Ivoire. Et avec un optimisme vraiment débordant et en même temps vraiment ancré dans le terrain. Elle a sa moto, elle va dans les villages, elle parle aux dames, elle parle aux hommes, elle essaye de changer les choses, quoi. Et, Et en fait, en la voyant comme ça, autant à fond, qui se donnait vraiment pour ça la cause qui lui tenait à cœur, bah, enfin, c'est toujours hyper kitsch de dire ça comme ça, mais elle m'a vraiment inspirée, quoi. Vraiment, c'est un bel exemple, et ça donne envie de se dépasser pour être comme elle, quoi. Parce que c'est fou, une personne comme ça.
Et je pense que grâce au podcast, vous rencontrez énormément de personnes avec des destins et avec des vies assez incroyables.
Oui, complètement.
Alors, grâce à vous, j'ai découvert que la capitale de la Côte d'Ivoire, c'était Yamoussoukro. Du coup, il me semble que vous êtes justement passé par Yamoussoukro pour après aller en direction du Ghana, cette fois-ci en bus. Qu'est-ce qui vous a motivé à changer de moyen de transport ?
Donc c'est Yamoussoukro, hein. Yamoussoukro.
Non mais t'inquiète, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait que Yamoussoukro c'est la capitale de la Côte d'Ivoire.
on n'a pas eu trop le choix en fait. Ce qui se passe, c'est que il y a ma tante qui venait nous rendre visite et ça c'était super sympa au Togo. Donc ça nous a fait très plaisir. Mais du coup avec les dates, on était un peu en retard. Je pense qu'on avait peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre sur l'itinéraire, ce qui fait qu'on pouvait pas arriver à temps au Togo pour voir ma tante et même du coup à temps à Cotonou pour prendre l'avion. Et du coup on a dû faire un choix, hein, et couper une petite partie de l'itinéraire. Donc on a pris un bus entre Yamoussoukro et Abidjan, et Abidjan et Accra, la capitale du Ghana. Je pense que si on avait pu, on aurait voulu tout faire à vélo. Mais fallait faire des choix, et c'est ce qui nous a permis aussi de passer plus de temps dans les endroits qu'on traversait. Et s'il y a des endroits qui nous plaisaient, de vraiment prendre le temps de regarder, de visiter. Nous, on n'est pas des gros rouleurs, on fait pas des distances énormes chaque jour, et ça nous permettait de prendre ce temps-là. Mais c'est vrai que le voyage à vélo, c'est bien à vélo, mais qu'est-ce que c'est compliqué quand on doit prendre le bus, qu'il faut mettre les vélos dans la soute, tout ça, où ils sont pas du tout habitués. On s'est quand même retrouvé avec les deux vélos sans aucune protection au fond de la soute, avec des kilos de bagages dessus. Heureusement, ils ont rien eu, mais on en a encore des sueurs froides.
Du coup, on a compris pourquoi on voyageait à vélo et que vraiment, on préférait le voyage à vélo, quoi, pas le voyage en bus. Heureusement qu'on n'a pas choisi ça comme moyen de transport.
Et c'est sûr que quand tu n'es plus sur ton vélo, ça devient difficile à déplacer. Enfin, pour le coup, même en France, c'est quand même compliqué de prendre le bus, prendre le train avec son vélo. Donc, en fait, c'est partout pareil, je crois. Donc du coup, tu nous disais, Mathieu, que vous êtes arrivé à Accra, donc je suppose que c'est un changement de paysage total par rapport, par rapport à la Côte d'Ivoire où vous étiez plus dans les terres, comme tu nous disais tout à l'heure. Quelle a été la suite de votre itinéraire justement après Accra?
Du coup, après Accra, l'idée c'était d'être un petit peu au Ghana quand même, de pas aller tout de suite au Togo. Donc en fait, on est remonté un peu plus vers le nord pour passer la frontière au premier tiers du Togo, quoi. Et en fait, là, ce qui est sympa, c'est qu'on a retrouvé des petites montagnes. Alors rien à voir avec le Fouta Djallon, qui était quand même beaucoup plus haut, ou les montagnes du sud de la Guinée, où là, ça montait bien. Mais c'est de retrouver des petits points de vue. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et en termes de paysage, en fait, finalement, ça changeait pas tant que ça entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. On sent que tout ça, c'est vraiment une grosse unité géographique, quoi. Là, il y a des frontières administratives, mais finalement, géographiquement parlant, tout le sud du pays, des pays en tout cas, se ressemble quand même pas mal.
Et peut-être quand même la différence, c'est que plus culturelle, c'est que le Ghana, c'est de tous les pays qu'on a traversés, non, à part la Gambie. C'est le seul pays anglophone. Il n'y a pas que la langue qui change, du coup on sent que l'influence est beaucoup plus anglo-saxonne. Donc, au lieu de manger de la baguette, c'est du pain de mie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Beaucoup plus de religions, des chrétiens, mais anglicans.
Oui, beaucoup d'anglicans, beaucoup d'évangéliques.
D'évangéliques. On sentait ouais, l'influence anglo-saxonne au Ghana.
Et des bus américains aussi pour les pour faire taxi collectif quoi, alors que nous c'était, enfin les autres pays c'était plutôt des camionnettes blanches, tu sais les petites camionnettes là qu'on peut voir aussi. Donc c'est marrant.
Alors très pratico-pratique encore une fois, comment faites-vous pour les ravitaillements en eau? Enfin, est-ce que c'est compliqué de se ravitailler en eau? Est-ce que vous devez du coup à chaque fois utiliser votre filtre à eau? Comment gérez-vous les ravitaillements en eau?
Alors là, c'est pour le coup, c'est très facile. Nous, ce qu'on voulait pas, c'était faire tout à l'eau minérale pour plusieurs raisons, parce que déjà, ça utilise une quantité phénoménale de plastique, ça coûte assez cher, et puis on n'était pas sûr de trouver de l'eau minérale partout. Mais par contre, de l'eau, bah forcément, dès qu'il y a des habitations, forcément, il y a de l'eau quelque part. Et le filtre à eau qu'on a acheté nous permet de boire vraiment n'importe quel type d'eau. Alors c'est sûr que des fois on nous a donné à boire l'eau de la rivière, des fois on a bu de l'eau quand même qui était très jaunâtre, mais en la passant dans le filtre, bah, elle devient potable et nous ça nous allait bien. Donc là-dessus, aucun souci. Et puis en fait, l'intérêt du filtre aussi, c'est que ça nous permettait d'éviter d'utiliser les aquatabs, les petites pastilles pour purifier l'eau. Parce que ça, c'est pratique de temps en temps, mais c'est vrai que boire de l'eau avec un goût d'eau de Javel pendant 5 mois, ça, ça aurait été un peu pénible pour nous.
C'est un peu désagréable, mais peut-être qu'au final, c'est pas si rentable que ça. Le filtre à eau, quand même, a une assez longue longévité.
Oui, et en oui. plus, ouais. Ouais, ouais, complètement.
Et peut-être que justement, dans des endroits où, peut-être en Amérique du Sud, vous nous direz, où c'est peut-être un petit peu moins peuplé, ça sera peut-être plus simple du coup d'avoir son filtre à eau et autres. Mais bon, ça, vous pourrez nous dire dans un deuxième épisode, peut-être. donc, on a rejoint le Bénin avec vous. Vous êtes actuellement à Cotonou, si je ne me trompe pas.
C'est ça, exactement.
Donc, vous allez prendre bientôt l'avion pour partir en Amérique du Sud et poursuivre votre voyage. Si on fait un petit retour d'expérience sur ces 5 premiers mois de voyage, alors c'est peut-être une question très globale qui mériterait encore une heure de podcast, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris pendant ce début de voyage et que vous aimeriez partager avec nous?
Un truc parmi d'autres que je retiens, c'est l'hospitalité. C'est que vraiment il n'y a pas un village on nous a refusé. À chaque fois qu'on a demandé au chef de village ou même à des habitants l'autorisation de dormir, on nous a toujours accepté. Quasiment systématiquement on nous a offert le repas du soir, parfois on nous a même donné une chambre, de l'eau, on nous a toujours offert une douche. Enfin, il y a un sens de l'hospitalité qui est très développé. Et nous, ça nous remet pas mal en question, parce que on sait pas... Bon, clairement, non, on n'est pas comme ça en France, quoi. En tout cas, Astrid et moi.
Ouais, clairement.
Donc ça nous a fait pas mal réfléchir sur notre propre sens de l'hospitalité, et ça nous a vraiment donné envie, quand on rentrera en France et qu'on s'installera ensemble, que ce soit vraiment une priorité pour nous de pouvoir accueillir les gens qui le souhaitent, et d'être vraiment ouvert là-dessus.
Moi, je pense qu'il y a un truc que je retiens vraiment, bah, c'est qu'on en est capable. Et en fait, j'ai envie de garder ça en tête pour après, pour me dire que quand il y a des difficultés ou des choses comme ça qui se profileront dans ma vie, et forcément, il y en aura, bah, se dire qu'en fait, déjà, je suis pas toute seule, il y a des gens autour de moi à qui je peux demander de l'aide, et en prenant du temps, en prenant le temps de demander aux gens, en gardant le sourire, bah finalement il y a quand même beaucoup 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 de choses qui sont possibles. Pareil, en France, j'ai toujours un peu le réflexe, je pense, de dire quand on me propose quelque chose, de dire ah bah non, ça va pas être possible pour telle ou telle raison, mais en fait si, c'est sûrement possible en y réfléchissant, en prenant le temps, en faisant des systèmes D, bah sûrement qu'on peut se débrouiller, quoi.
Vous partagez sur votre podcast 17 rayons d'espoir et témoignages des initiatives et des associations rencontrées tout au long de votre route. On en a déjà un petit peu parlé pendant cet épisode. On peut aussi suivre votre voyage sur votre blog et sur votre compte Instagram. Donc on peut voir votre voyage en Afrique, vous y publiez aussi des anecdotes et raconter comment vous vous sentez, comment Qu'est-ce qui vous a surpris? Quelques galères aussi. Et il y a aussi, alors moi, ce que j'apprécie beaucoup, on a déjà un petit peu parlé aussi, c'est tous vos épisodes de podcast en voyage à vélo, qui nous plongent en Afrique avec vous et en voyage à vélo. En quoi est-ce important pour vous de partager votre voyage?
C'est vrai que c'est important. C'est vraiment important pour moi. Et je me demandais pourquoi. Est-ce que c'est juste pour montrer aux autres ce que je suis en train de faire? Est-ce que, quelle est cette volonté d'expliquer aux autres ce qu'on vit? Parce que le but non plus, c'est de ne pas passer tout le voyage à raconter ce qu'on fait et de profiter du moment, quoi. Et en fait, ça remonte à les 6 mois que j'avais passé au Sénégal. J'ai vraiment le souvenir d'être rentré en France après ces 6 mois. Et on m'a demandé, alors, le Sénégal, c'était bien? Et je savais pas quoi répondre, quoi. Parce que, en une seule phrase, raconter une expérience de 6 mois, c'était impossible. Et j'ai vraiment eu ce problème en rentrant en France de vraiment pas arriver à raconter le voyage, à raconter ce qui m'a marqué, en quoi ça m'a changé, en quoi ce que j'ai vécu était radicalement différent de ce que je connaissais. Et je pense que c'est pour ça que, de mon côté, j'ai besoin que, en tout cas, mes proches, de donner le moyen à ceux qui s'y intéressent, et en particulier à mes proches, qui sachent un peu ce qu'on vit. Donc les podcasts, je trouve que c'est un bon moyen de montrer les émotions qu'on vit et tout ce qu'on traverse, pour qu'ils comprennent vraiment ce qu'on vit, et qu'une fois de retour en France, ce soit plus facile pour nous de raconter. Je pense, moi, c'est vraiment ça qui m'anime et qui me motive à consacrer quand même du temps pour faire le montage des podcasts, pour faire les petits articles sur le blog, ou faire, là c'est plutôt Astrid, les posts Instagram.
Et c'est très intéressant d'avoir ce fil conducteur du coup dans le voyage, qui va aussi faire le lien du coup entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, où vous allez avoir, les autres initiatives ou associations que vous n'avez pas eues. Je ne sais pas combien d'initiatives ou associations vous avez vues en Afrique, la moitié peut-être.
Et ben on va, ça va faire 10 jeudi normalement, si tout se passe bien.
Attends, on prend un peu de l'avance, parce que comme en Amérique du Sud, ça sera en espagnol. On commence à paniquer là.
Ah, ça va être un autre challenge.
Ah, complètement,
Bon, et justement, vers où vous dirigez-vous maintenant? Quelle est la suite de votre voyage? Faites-nous rêver.
Mais du coup, le 4 avril prochain, là, on prend l'avion pour aller de Cotonou jusqu'à La Paz. D'abord, en fait, on va atterrir à Buenos Aires. Et là, à Buenos Aires, il va falloir prendre un bus pour aller jusqu'à La Paz, en Bolivie. Donc, normalement, ça serait en gros 36 heures de bus. Voilà. Donc, on va arriver à La Paz, on va se poser un petit peu, hein, parce qu'après 2 jours d'avion, 36 heures de bus, je pense que on aura envie de juste récupérer du décalage horaire. Et après, l'idée, c'est de rouler plein sud de La Paz jusqu'à une région, la région de Salta en Argentine. Donc, en fait, traverser la Bolivie plein sud par l'altiplano, qui est dans les Andes. Alors là, pour le coup, c'est quand même beaucoup, beaucoup moins hors des sentiers battus, parce que y a pas mal de cyclotouristes qui ont fait ce voyage-là, notamment en passant par le Salar d'Uyuni. Je pense que t'as certainement dû avoir des invités qui sont passés par là-bas. Voilà, donc déjà plus classique, mais qui nous fait vraiment rêver aussi. Et ouais, pour l'instant, l'objectif qu'on s'est donné, c'est Salta. Mais c'est, en termes de distance, c'est un peu moins que ce qu'on a fait là, nous, de Dakar jusqu'à Cotonou, sans compter le bus, hein, enfin vraiment la partie vélo. Donc c'est bien, ça nous laisse un peu le temps aussi de voir, si on a un peu de temps après, on pourra peut-être prolonger un petit peu.
En fait, on a un peu changé la démarche, c'est de prévoir justement une distance un peu plus courte, tout en se laissant plus de liberté, soit de passer plus de temps dans les endroits qu'on traverse, soit de prolonger à vélo, soit de faire autre chose en arrivant, parce que ce soit un peu moins... là, en Afrique, c'est vrai qu'il y avait la ville d'arrivée à laquelle il fallait qu'on soit. Là, ça nous donne un peu plus de liberté, ce qui est chouette aussi.
Et du coup, l'idée, c'est en fait, début août, de redécoller de Buenos Aires et d'arriver à Londres, pour ensuite terminer de Londres jusqu'en région parisienne à vélo, afin de conclure un peu plus le voyage, sur nos montures, quoi, et rentrer chez nous en pédalant.
En douceur.
C'est ça, voilà.
je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. La dernière question qui conclut tous les épisodes de Cyclotopo, c'est quels conseils pourriez-vous donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo? Et peut-être un voyage à vélo en Afrique.
Moi, je dirais, faites un crash test pour voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pour une semaine, y a des chances que ça vous plaise pour plus longtemps quand même.
Et moi, pour l'Afrique, ce que je dirais, c'est que ce qui est vraiment, en tout cas l'Afrique de l'Ouest de ce qu'on connaît, c'est que c'est vraiment des rencontres incroyables. Je pense pas que, si on cherche des paysages vraiment extraordinaires et très variés, c'est peut-être pas forcément le continent qu'il faut choisir, mais vraiment pour le contact avec les gens, la rencontre et la rencontre interculturelle, là c'est vraiment the place to be. Et nous, ça nous a vraiment plu. On était très touchés par toutes les belles rencontres qu'on a faites. Et là, on recommande vraiment. Et avec que l'Afrique, ça peut faire peur, mais qu'il y a vraiment, tous les endroits par lesquels on est passé sont vraiment très safe et on s'est tout le temps senti en sécurité, tout le temps. Donc, faut pas avoir peur là-dessus et pas d'appréhension.
Je crois que c'est une belle conclusion. On a voyagé avec vous en Afrique pendant cet épisode. C'est vrai qu'à l'Afrique, on en parle assez peu dans le podcast. Et c'est encore mieux d'avoir des voyageurs actuellement en voyage en Afrique. et ça donne vraiment envie d'aller découvrir du coup cette partie du continent. On aura l'occasion de parler un peu plus de l'Afrique dans les futurs épisodes de Cyclotopo, mais j'en dis pas plus. En tout cas, on va continuer à vous suivre, à écouter vos podcasts 17 rayons d'espoir et puis à suivre la suite de votre aventure en Amérique du Sud au départ de La Paz, du coup. Je vous souhaite une bonne suite de voyage, du coup, Astrid et Mathieu. Bonne route.
Merci beaucoup,
Merci
Claire.
Merci beaucoup, Claire.
Juste avant de conclure cet épisode, avec Astrid et Mathieu, nous vous donnons rendez-vous ce jeudi pour un épisode bonus. Ils nous donneront leurs nouvelles et nous raconteront le début de leur voyage en Amérique du Sud. Donc rendez-vous sur Cyclotopo pour écouter cet épisode bonus et découvrir la suite de l'aventure d'Astrid et Mathieu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast via la plateforme Buy Me a Coffee. Les dons récoltés permettront de contribuer au développement du podcast pour vous proposer toujours plus de voyages à vélo. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux et par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez y retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quelle popote choisir pour un premier voyage à vélo, c'est sur Cyclotopo que vous trouverez toutes ces infos. Ciao !